Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous. Comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, nous avons la joie d'avoir dans ce studio de la rue de Sally, Claude Barrère. Claude, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Claude, ça fait quand même des années que tu n'es pas venu dans ce studio. Il est difficile de t'avoir, donc on est très 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 heureux de te compter parmi notre invité ce soir. Avant de parler de ton travail poétique et artistique, je voudrais présenter très rapidement les deux publications qui sont arrivées à mon courrier aujourd'hui. Donc, qui sont arrivées aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai pas eu encore le temps véritablement de les lire. Il s'agit de Page insulaire numéro 28 de décembre 2012. Cette revue bimestrielle qui est perméable aux idées, animé par Jean-Michel Bongirau, qui présente, comme à son habitude, un éditorial puissant. Aucune vérité n'est donnée. Il importe de savoir que le chemin suivi n'est pas celui de l'injustice ni de l'oppression. Voilà ce qui importe. En définitive, ça me convient très bien. Si on est en dehors de l'injustice et de l'oppression, alors, aucune vérité n'est donnée. J'adhère totalement à cet éditorial Le Chemin de Jean-Michel Bongirau, dont je vous lirai un extrait la semaine prochaine. Alors, dans ce numéro, vous allez trouver, en dehors de cet éditorial, Science et poésie de Roland Coulard, La douceur, c'est un dessin de Salvador Giucardo, qui a illustré pas mal de recueils de la collection Encre vive de Michel Cosem, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à ce que fait Alain Lacouchy. Je ne sais pas si tu vois, Claude.
Non, je ne connais pas.
Voilà. Bon, c'est des dessins assez, au trait un petit peu géométrique, géométrique, etc. Bon, Je ne crois pas que ce soit tout à fait ton style à toi. À toi, on parlera.
Non, c'est pas la même famille. Voilà.
Et puis des poèmes de Muriel Sandelaire, Dominique Dumont, Bernard Perrois, Henri Cachot, Jean-Louis Bernard, Katia Rossel, Patrick Jocquel, Yves Jacobouin, Georges Catalot, des lectures de Georges Catalot, qui, là aussi, l'infatigable Georges, donc se démène aussi dans cette revue et livre ses notes de lecture, l'infatigable lecteur de poésie qu'est Georges Catalot. Et puis, nous avons reçu de Marcel Migosi, dernier témoin, c'est aux éditions Tarbuste, hein, dernier témoin, très très bonnes éditions, avec une illustration qui, là aussi, véritablement est...
celle-là est de ma famille.
Voilà, et de ta famille. Marcel Migosi, pour lequel nous avons eu le plaisir de faire une émission ici, et qui signe là son dernier recueil, Dernier témoin. Je crois que tu as commencé à lire ce recueil, Claude Barrère, et que tu veux nous lire un extrait donc, de ce recueil de Marcel Migosi, Dernier témoin.
Oui, ne serait-ce que pour envoyer mon bonjour à un poète que j'admire et avec qui je suis, disons, en correspondance. Donc je vais vous lire le poème inaugural de Dernier témoin, pas tout à fait inaugural. Faire part ou poème, comme une maison vide à peur, où solitude ne fait plus de quartier, où l'on voit dans un miroir les chaises renversées par les absents. D'un poème, comment tomber dans cette vie? Le mot tombe, finira par ne plus être un verbe.
Voilà, Marcel Migosi. Alors bien sûr, nous aurons l'occasion d'en reparler et vraisemblablement de faire une émission également bientôt sur de nouveau Marcel Migosi, qui est un des poètes importants hein, de notre époque. Enfin, une exposition dont je ne vous ai pas parlé encore ici, et c'est une erreur parce que j'aurais dû le faire. Alors c'est à Carcassonne, hein, nous sommes voisins de Carcassonne. Au mois de décembre a été présenté un film, un portrait de Cécile Reims et Fred II. Bon, il n'est pas été. Exposition au centre Jo Bousquet. Mémoire dans la maison qu'habitait Jo Bousquet, 53 rue de Verdun à Carcassonne, une rue historique, une maison historique, hein, puisque c'est là qu'est décédé Jo Bousquet. Donc une exposition Fred II, le dessin et le livre, donc à voir absolument. Fred II, donc qui est familier à Claude Barrère et dont nous parlerons dans le cours de l'entretien que nous allons avoir, puisqu'il fait partie des influences graphiques donc, de Claude Barrère. Donc c'est Carcassonne est un autre, comment dirais-je, c'est presque dans les faubourgs de Toulouse, hein, il faut y aller. Alors le problème c'est que on ne peut pas y aller le dimanche, le centre Jo Bousquet est fermé le dimanche, bon c'est... Mais oui, c'est vrai que c'est. Il faudrait pour ceux qui n'habitent pas Carcassonne, il faudrait. C'est comme le musée. Il y a un très beau musée aussi à Carcassonne où il y a de temps en temps des expositions temporaires qui sont vraiment à voir. Mais c'est fermé le dimanche. Donc il faut y aller en semaine ou il faut y aller le samedi si l'on peut. Alors Fred II et Cécile Reims, c'est deux artistes majeurs hein, qui ont traversé le siècle et croisé les plus grands noms de l'art et de la littérature, rescapés des démons de la folie de la Deuxième Guerre mondiale. Ils portent à jamais dans leur œuvre cette ombre indélébile avec une inépuisable puissance créatrice. Donc à Carcassonne jusqu'au 16 février 2013, à voir absolument. Claude Barrère. Donc Claude, tu es venu ici il y a déjà longtemps, ce qui ne veut pas dire que tu sois resté sans rien faire tout ce temps. Hein. Tu es né en 1946 dans le Gers, donc tu es un Gascon.
J'en suis fier. J'y retourne beaucoup.
Oui, comme tous les Gascons. Bon, tu es maintenant, tu fais partie de ces générations qui est à la retraite.
Depuis peu, mais enfin bon, Seigneur.
Pas dans le retrait.
Hein, oui, voilà, voilà, tout à fait. Alors, retraite, c'est un mot français qui est pas bon quand même, hein. Il faut dire vraiment bien. Donc, tu as été formateur à l'Institut universitaire de formation des maîtres, hein, pour la littérature jeunesse. On en parlera de cette littérature jeunesse. Tu as été animateur pendant 15 ans à un atelier d'écriture, dont l'atelier K pour l'écriture, avec des collègues à toi dont tu nous parleras certainement. Hein. Et puis, parallèlement à l'écriture poétique, tu pratiques le dessin et la gravure, dont tu as participé à des salons régionaux à Saint-Aurens, à Dounaguet, à Fronton, à Toulouse. Et d'exposition en galerie, la galerie Roger Betty à Toulouse, d'Argile à Saint-Bertrand-de-Comminges, et les estivales Lagor à Seix. Alors ça c'est chez moi.
À l'Ariège.
C'est en Ariège, voilà. Tu aimes faire dialoguer poésie et peinture, alors ça depuis le départ, hein, puisque je me souviens de ton premier, dont on va en parler tout de suite, de ton premier première publication, qui a été publiée aux éditions Subervie, en 1980, parce que tu venais d'avoir le prix Voronka.
Le prix Voronka
était
sur manuscrit.
Voilà, c'était sur manuscrit et c'était l'édition du manuscrit. Donc, tu as apporté à l'édition de ce manuscrit un soin qui n'était pas courant. C'est-à-dire que les autres lauréats n'étaient pas aussi exigeants, entre guillemets.
Je suis même
toi.
Allé à l'imprimerie. Oui.
Alors, voilà, tu es allé à l'imprimerie.
Même allé à l'imprimerie.
Oui. Oui.
Parce que dans ce recueil qui est très composé finalement, puisqu'il est l'aboutissement de 10 ans à peu près d'écriture,
oui, avec beaucoup de vue probable.
Vue probable, avec beaucoup d'élagages et tout ça. Il y avait, je voulais une variation de typographie pour signaler des parties plus lyriques qui étaient des chants. Et
une partie plus
expérimentale, oui. Qui était des passages, oui. Voilà. Oui. Et donc, ces deux voies ont évolué, chacune, jusqu'à présent. Voilà, j'ai pu les critiquer en moi-même et voir le chemin parcouru maintenant.
Alors bon, moi c'est la première fois que tu m'avais offert à cette époque-là, donc avec une belle dédicace, ce recueil. Depuis, tu as publié Du Graphe à l'expression graphique. Alors ça, c'est dans la collection Jacques Placès, graveur, avec Jacques Placès.
Hein. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai fait un livre d'artiste aussi avec Jacques Placès, qui est graveur et qui était professeur de gravure aux Beaux-Arts.
Oui, voilà. Ici à Toulouse, aux Beaux-Arts de Toulouse.
Voilà.
Et alors, le fils, ça m'avait beaucoup impressionné. Je me souviens encore de la performance de Michel Ragy, quand tu as présenté ça aux Beaux-Arts, justement,
aux
Beaux-Arts, quai de la Dorade, à Toulouse. Bon, je vois que c'était en 1990, il y a déjà quelque temps.
Hein. On a décliné ce livre d'artiste à peu près sur tous les arts. Ça a été enregistré par Jacques Schoen, par un jeune sociétaire qui n'était pas encore sociétaire de la Comédie Française. On l'a présenté pendant 5 ans dans des lieux très divers où ça a reçu dans le cloître de Saint-Nizier, à la Salpêtrière à Paris, enfin un peu partout. Ça a été une très grande aventure. C'est un livre de grande bibliophilie.
Alors, ça s'appelle Le Fils.
Le Fils.
Alors, c'est autour des stations du chemin de croix. Il y a 8 poèmes. Tu as composé donc 8 poèmes, écrit 8 poèmes, qui est orné de 16 eaux-fortes de Jacques Placès. Voilà, qui sont des typos à la main de François Darros. Hein.
Et voilà, François Darros, qui est un grand typographe. Et on peut voir un exemplaire département des livres d'artistes, à la bibliothèque. Je pense qu'elle est toujours au Périgord, je ne sais pas.
Oui.
Voilà, un exemplaire a été acheté.
Oui, alors, oui, là, il y aurait quelque chose à dire, parce que, à mon avis...
Par Chantal Dessous, je ne sais pas si c'est toujours elle qui...
Il y a une collection de livres d'artistes importante dans les fonds municipaux, ici, à Toulouse. Et en particulier, d'ailleurs, il y a une bibliothèque aux Beaux-Arts, Mais il faudrait que ce soit plus ouvert. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, il n'y a que quelques chercheurs qui peuvent avoir accès à ces fonds, alors que ce sont vraiment, à mon avis, c'est l'œuvre publique de le mettre à la disposition véritablement du public. Bon, sachez que c'est, si vous voulez le voir, parce que bon, c'est un livre de grande bibliophilie, ça veut dire que c'est un tirage qui est limité et qui, évidemment, c'est un livre qui coûte cher, pour pas dire très cher.
Oui, c'était, voilà. C'est de l'ordre de 700 euros.
Oui, voilà. Donc ça, vous pouvez le consulter ici à la bibliothèque. Il faut aller aux Beaux-Arts, qui est de la Dorade.
Aux Beaux-Arts, non. À la bibliothèque municipale de Toulouse.
Au Périgord, mais ils ont maintenant.
Il y a peut-être.
Et oui, ils ont transféré tous les livres d'artistes. Les livres d'artistes sont maintenant le.
Ah bon. Vous savez voilà. Pas.
Alors, pour saluer le dessin, c'est un préface-poème pour un catalogue d'exposition. Ça, c'était au Musée Ingres, à Montauban. Mmh. Florilège 96, c'est une anthologie des poètes contemporains de Midi-Pyrénées. Parole des poètes d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est en collection avec Michel Piquemal. C'est un choix de poèmes pour les jeunes. Chez Ben Michel, ça c'est important dans ce que tu as fait, dans cette collection Parole 1999. Comment tu arrives à publier ces paroles des poètes d'aujourd'hui, choix de poèmes pour les jeunes? Alors en réalité, il y a tout un parcours, donc tu es enseignant, tu es formateur, tu es chercheur, tout cela, tu es documentaliste également. Tu es animateur, je viens de le dire, de l'atelier K pour l'écriture. Donc, tu es naturellement tourné, bien entendu, vers la formation à la lecture, à la poésie, et tout naturellement à la littérature jeunesse. Dans la littérature jeunesse, tu y rentres profondément, c'est-à-dire que, véritablement, tu vas y passer beaucoup de temps, il y a beaucoup de passion, on voit dans... tu fais ton travail, mais avec une vraie passion.
Oui.
On le sent vraiment... Et donc, il est logique que tu fasses ce choix de poème pour les jeunes, pour Albin Michel, Parole des poètes d'aujourd'hui.
Je crois... que la lecture de poésie contemporaine est vraiment une pratique et qu'il faut avoir des outils pour pratiquer cela. Ouais. Et ce volume de la collection Parole, qui est une collection connue,
oui,
avec un très bon illustrateur, d'ailleurs un illustrateur italien qui a aussi, illuminé l'approche de ses poèmes.
Ouais.
Et on avait choisi des poèmes assez courts, des sortes de salves pour frapper un peu les jeunes, et pas forcément dans des choses qui étaient très courues dans les anthologies et qui pouvaient être récupérées un peu trop par le scolaire. Parce que je crois qu'avant tout, il faut être émerveillé, il faut tomber en arrêt, quoi. Et les jeunes peuvent véritablement. Ils le font pour la chanson, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire pour la poésie.
Bien sûr. Alors après, tu as... On va revenir un petit peu, si tu veux, un petit peu en arrière dans ta construction artistique, depuis Vue Probable. Donc Vue Probable nous apprend qu'il y a un dialogue permanent chez toi entre l'écriture et le graphisme, l'art plastique.
C'est là depuis...
Alors ça, depuis apparemment...
Depuis mes 9 ans,
oui, voilà.
Ces deux modes d'expression...
Voilà.
Qui marche l'angle.
En parallèle.
Marche l'angle. Voilà. Et qui entretiennent des rapports de vases communicants, mais pas des rapports d'illustration.
Oui, c'est
du
ça.
Du tout.
Voilà, c'est ce qu'il faut bien dire.
C'est une même...
C'est deux voies d'expression.
Le trait et le mot et le poème, qui sont des formes brèves, courtes, me permettent un saisissement. un saisissement de l'instant qui me convient véritablement, d'autant que ma poésie, comme tu sais et comme on me le reproche parfois, est très économe, très essorée.
Donc ce rapport poésie-peinture, c'est l'articulation entre le texte et le travail plastique, qui t'a toujours bon. Donc il est normal que, ayant cette préoccupation permanente chez toi, on te retrouve par exemple dans le regard que tu vas avoir sur Soulage, par exemple, tu vas à Conques. Il y a peu de temps, voir les vitraux de Soulage à Conques, il faut y aller.
Qui ont été beaucoup critiqués.
Oui, bien sûr, mais ils le seront tout le temps. Je veux dire, bon, dans cet endroit sévère, austère, extraordinaire, et ces vitraux, donc, où le noir, la lumière joue ce noir
qui accompagne remarquablement
les lignes tout à fait.
Et j'ai eu la chance de les voir par temps d'orage avec une mobilité de la lumière et de pouvoir en noter toutes les opalescences, ce que je dis dans ce recueil.
Alors c'est lumière d'outre-lumière.
Voilà. J'avais inventé avant lui outre lumière, lui a inventé outre noir, mais c'était avant.
C'est aux éditions Trump, ça a paru en l'an 2000.
De Gérard Truyer.
Voilà, les gravures originales de Gérard Truyer. Alors on va retrouver ce travail sur le noir chez un peintre qui est notre grand peintre en définitive toulousain, qui est Pierre Marfin. C'est vrai, parce que bon, il a travaillé énormément sur le noir aussi. Quelqu'un que tu connais comme moi, qui s'appelle Rao, essaie d'expliquer qu'il y a une école toulousaine, et bien entendu, Marfin fait partie, et le phare, le peintre phare de cette école toulousaine. Donc il faut se rappeler quand même que nous avons, nous, à Toulouse, notre peintre il n'a pas fait que du noir, Marfin, loin de là. Mais il a une œuvre quand même terriblement...
Il a été peu montré quand même, une fois aux abattoirs, un peu, mais...
Oui, il a exposé également au centre Croix-Borgnon aussi. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu véritablement quand même le retentissement. Ceci étant, les connaisseurs l'achetaient. Je veux dire, c'est un peintre qui a vécu de son art, qui a vécu bien même de son art, de son vivant. Il vivait bien, donc ça voulait dire que les amateurs savaient, connaissaient, il y avait des connaisseurs. Il n'a pas souffert de ça. Mais c'est vrai que, par exemple, la ville de Toulouse, Toulouse ne lui a pas rendu l'hommage qu'elle lui doit. C'est un des grands peintres de Toulouse. Bien. Et là, tu rends hommage, toi, à Pierre Morfin, dans « Sait-on le blanc, sait-on le noir ?». Alors, c'est un poème qui a été mis en musique, interprété par Philippe Berthaud, qui est un poète-chanteur également de Toulouse. Malheureusement, pour des raisons techniques, ça a été enregistré sur cassette et on ne peut pas le passer, du moins aujourd'hui. On le passera plus tard parce qu'on va convertir ça, et maintenant on a les moyens modernes de pouvoir passer outre. Donc on fera entendre ce texte, cette mise en musique par Berthaud. Berthaud qui a mis en musique également Thierry Metz, prochainement dans une de nos prochaines émissions. Et puis avec
Ce qui m'intéresse là, c'est ce dialogue vraiment entre les arts. Et que permet la poésie? C'est-à-dire, pour moi, la poésie, c'est pas un art parmi d'autres. Ça serait la médiation des médiations. Et là, dans cette expérience avec Philippe Berthaud, que je remercie, justement, il y a toutes ces formes de transposition. C'est-à-dire, on part d'une impression picturale, ça devient un poème, c'est mis en musique, c'est interprété, et voilà comment ça chemine, je pense, aussi la poésie. Pour aller à la racine de la création, pour aller cueillir quelque chose de la création.
Oui. Beaucoup de grands poètes, je pense à Nicolas Dieterlé par exemple, qui disait que la poésie c'était aussi un moyen de retrouver cette espèce de parole perdue,
de retrouver l'origine du monde, en définitive. Hein. Il n'y a pas que lui, je veux dire qu'il a repris ça des grands poètes, Méchonique a eu cette idée aussi. Hein. Alors, tu fais paraître...
Pour avoir écrit sur beaucoup de peintres, hein, justement, c'est pas tellement le résultat que j'ai devant qui m'intéresse, c'est ce que me permettent les mots de la poésie pour aller à la source de la geste artistique. Oui. Et même, ça c'est peut-être un peu prétentieux, pour en prévoir le devenir. C'est-à-dire que je pense que là, la poésie a une fonction presque divinatoire, presque oraculaire, hein, que je n'arrive pas très bien à m'expliquer. Parce que les premières fois où j'ai écrit sur des peintres, j'ai écrit sur Garache, j'étais très jeune, qui m'a renvoyé une œuvre pratiquement par retour, alors qu'il ne me connaissait pas et tout ça. Ouais. Et je me suis dit, non pas par intérêt, mais je me suis dit, là, il y a quelque chose. Il y a une pénétration ouais. que je peux peut-être exercer, quoi. Et ça m'a toujours requis depuis, par rapport à un sentiment de l'autre aussi. Oui, hein, c'est là.
Est-ce que on pourrait, pour illustrer ce propos, lire quelques textes.
Quelque chose sur.
Alors, ce que tu avais choisi peut-être sur Vue probable. Hein.
Sur Vue probable. Oui.
Voilà.
Alors, parce que j'aurais voulu dédier cette séance à ma mère qui est disparu, et dont lire un poème, vous savez, dans les recueils, il y a des poèmes qui se vident complètement, qui deviennent des coquilles vides, et d'autres qu'on peut arriver encore à habiter. Alors voilà, je voudrais lire ce poème à ma mère. Mère, celle qui m'approche dans la clairière, de fougères aigles, amour et douce, songe dedans l'écorce qui dure, et blessé qui me nourrit de plaies ouvertes dans l'aubier qui forcit, ses gestes m'accompagnant au fait qui devient. Alors après, pour ne pas être trop long, peut-être un poème plus lyrique sur la ville de Florence, et sur le fleuve Arno. Alors ça faisait partie des chants, justement. L'heure, écharpe qui m'aime, musicienne, bleue, bercée, avec les poudres sur la colline repentie, lentement les oiseaux gagnés du crépuscule. L'Arnaud s'évade lisse, entre les arches, mille pleurs écrivent, nous traversons, le fleuve, la splendeur ombellifère, d'astres nouveaux et reflétés parmi la ville. Celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Le souvenir des jours, de l'autre à peine, éclairé de genêt, la voix, le sourire que traversent les vents, les oiseaux doux et sa chair, transparente, moi, au margelle des puits, que d'heures penchées, de son regard de scolopendre à lire le corps parmi la nuit verticale. Certitude des êtres qu'un même geste attarde rejoint en une déchirure, et parmi cette nuit, descendre ou ne descendent plus les sceaux. Alors un dernier pour finir, sur, qui est une métaphore du poète. Dedans la crue de l'herbe, comme le poète avancé, intermittent parmi les mots, comme le faucheur à la découverte, il marche, le corps entier oublieux, au centre qui le manifeste. Il raidit sa candeur, il agite de sa vision le possible éventail, jusqu'au retournement, jusqu'au fer amplifié, giration qu'il expose à la marge, aux sucvirides affleurés, parleurs comme des lampes. Il finit, révérencieux et froid, dans l'enveloppe des sueurs, interrogé du châtiment des tiges.
Voilà. Alors ça, c'est extrait de Vue probable. Hein. C'est-à-dire que tu as écrit ça, tu avais 30 ans. Hein.
Voilà. On n'est pas sûr d'avoir fait des progrès. Bon, ça, on pourrait s'arrêter là, peut-être.
Alors, tu fais paraître également un texte qui s'appelle « Déterrement de la lumière ». Sur magnifique, c'est quoi, c'est une
acrylique sur papier.
Acrylique sur papier, donc d'un nouveau tour. Alors, qui est un nouveau tour? Parce que, apparemment, tu en parles beaucoup, il y a des textes qui lui sont dédicacés. Alors, c'est magnifique, hein, sur un très beau papier. Est-ce que tu pourrais nous lire d'abord le texte?
Je vais essayer. Il faut dire que c'est une acrylique assez violente.
Ah oui,
le titre, d'ailleurs, « Déterrement de la lumière », a été... Parce que ça a été choisi par un poète donc qui dirige ses éditions. C'est au Cahier du Museur, qui sont à Nice. C'est une collection qui s'appelle « À côté » et qui fait dialoguer dans... un poète et un peintre. Bon, il y a des choses qui ont paru avec Bernard Noël, qui écrit beaucoup aussi sur...
C'est pas Alain Frêche. Tu parles de
c'est Alain Frêche, voilà.
Oui.
C'est Alain Frêche,
oui.
Voilà.
Oui. Voilà. Extraordinaire, Alain Frêche. Oui.
Donc,
oui.
Qui a à la fois une galerie,
oui.
Une collection...
Oui, une galerie,
qui
est poète également.
Et qui nous a permis de faire ça.
Oui.
Parce qu'il faut se dire que quand on est dans ce sillon, il est très difficile de publier des choses. Et cela, vraiment, pour avoir une bonne qualité de reproduction, un respect, tout simplement, pour les gens très connus, c'est facile.
Mm-hmm.
Voilà.
On t'écoute.
Déterrement de la lumière. Pour l'air rejailli, nuitamment de l'exil, insurrection sismique, fièvre, arborée de racines fécondes contre le jour. Aux ciels intercesseurs du pâle, portement souverain. Pour le profil danseur d'archanges musiciens, intermittences élues, degrés scalaires, entonnant la couleur d'un claquement d'oriflamme à l'horizon basculé. Peinture de remparts, chemin de ronde du regard, aux villes hautes du sentiment tragique. Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer, je te pose la question, est-ce qu'on peut s'imaginer quelque chose à partir du texte ou pas? Parce que c'est bien la question.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut voir en premier, l'œuvre,
le
texte?
Oui, je crois que là il y a un dialogue de l'un et de l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit difficilement l'un sans l'autre. Hein. Moi, je vois ce qu'a fait un nouveau tour, là, l'acrylique d'un nouveau tour. Avec le texte, et ne serait-ce que le titre, Déterrement de la lumière, bon, il y a un éclairage et tout d'un coup, il y a une espèce d'illumination parce qu'il y a une compréhension différente. Il y a une espèce, c'est un peu comme si on avait un mode d'emploi.
Mm-hmm.
Voilà. Et ça, c'est réussi. C'est-à-dire qu'il
c'est
y a
pour
vraiment...
ça qu'il faudrait appeler ces textes des illuminations.
Ah oui, très bien.
En fait.
Oh, on a trouvé.
Pas des illuminures,
oui.
Pas des illustrations,
oui. Mais des illuminations. Oui, ça serait beaucoup plus à Rimbaud. Alors, Déterrement de la lumière. Alors, tu m'as pas répondu. Un nouveau tour, c'est qui, alors?
Alors, un nouveau tour, c'est d'abord une amie.
Oui.
Une artiste.
Mais elle est à Toulouse?
Elle est à Toulouse. Elle est à Toulouse. Elle expose, elle a ses œuvres exposées à la galerie Tiny Factory, rue Ozen.
Ah. Oui.
Voilà. Donc, c'est une œuvre plutôt abstraite, d'une grande force à la fois gestuelle, colorée. C'est quelqu'un de très modeste et qui peut-être n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite. Je la salue d'ailleurs.
Eh bien, nous aussi.
Si elle m'écoute.
Donc, on ira voir cette galerie rue Ozen. Hein.
Voilà, Tiny Factory.
Maintenant. Que tu me dis ça, effectivement, j'ai des petits flashs comme ça, je crois avoir reconnu un petit peu certaines coloris de toile. Qui sont... Alors ça, c'était toi, tu faisais le texte, et tu avais un autre artiste pour la partie plastique. Par contre, tu as fait l'inverse. Par exemple, pour notre ami Jean-Louis Clarac, qui a fait paraître Vers les confins, aux éditions Encre et Lumière, eh bien, ce sont tes encres qui sont éditées également. Hein, donc, là aussi, il y a un dialogue. Hein, c'est un très beau livre, très très beau livre, ça a été très bien fait.
C'est un bel ouvrage.
Hein, c'est un bel ouvrage, vraiment. Bon, on en a parlé, je pense, ici. Donc, Jean-Louis Clarac est aussi exigeant, hein, je veux dire, sa femme est artiste, c'est...
Oui, elle est plasticienne.
Elle est plasticienne,
Alors, c'est un recueil qui a eu le Grand Prix de poésie de la ville de Béziers.
Alors, voilà, c'est ce qu'il fallait, ce qu'il faut dire, donc...
Pas le recueil, les textes de Jean-Louis, pas le recueil lui-même, puisqu'il a été édité après.
Oui. Alors là, l'édition est vraiment réussie, c'est un très 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 beau
texte. Très belle typographie.
Alors là, tu es parti quand même des textes, et sur ces textes-là, tu as plaqué, parce qu'on reconnaît du Claude Barrère tout de suite, je veux dire c'est de là qu'on voit un grand artiste, c'est-à-dire c'est, au premier coup d'œil, on dit ça c'est deux, tac, hein, voilà. Et toi, tu en es là, c'est-à-dire que depuis Vue Probable, ce que j'ai vu sur Marcel Migosi, des illustrations, etc., toutes les illustrations, je suis persuadé qu'on me le met avec d'autres, je reconnais quand c'est toi. Voilà. C'est-à-dire que tu as, donc, dès 30 ans, tu as affirmé quand même un style, sur le plan graphique, qui est un style qui va, en définitive, tu vois, bien entendu, qui va prospérer, je dirais, mais qui va être ta signature, que tu le veuilles ou non, parce que là, je crois que franchement,
c'est comme un corps, cette configuration de traits. C'est comme un corps, et j'ai commencé à en parler de Fred II, donc pour y revenir, c'est quelqu'un qui a fait une introspection au niveau viscéral dans ses dessins, ses gravures. Donc, ce qui a été gravé par Cécile Reims, c'est une espèce de corps. Et quand je dessine la nature à laquelle je suis revenu, ce n'est pas un réalisme, même si ça a l'air très précis. J'ai l'impression que j'essaie de comprendre la plus petite unité d'un végétal et ensuite de m'abandonner pour en faire les articulations comme dans un corps, comme de l'articulation du vivant. Et là, on pourrait revenir vraiment à Laurent Gaspard, qui m'a beaucoup influencé aussi.
Oui. Il y a, tu disais qu'à une époque, tu t'imprégnais également des radiographies, et c'est vrai que quand on regarde ces dessins, il y a un côté qui peut être, comment dirais-je, on reconnaît l'objet, mais il n'est pas du tout réaliste. Absolument pas.
Abusivement.
Et voilà, il est, voilà. Mais
il n'est pas hyper réaliste, non.
Mais bien entendu. Et c'est ce qui en fait, la saveur. Hein, c'est ce qui fait que ça nous touche, ce qui en fait l'émotion, c'est-à-dire qu'il y a une recomposition de la réalité. La réalité est recomposée et elle apparaît sous un jour qui était caché.
Au titre d'une vibration que je recherche de plus en plus et qui n'est pas si éloignée que de la vibration poétique.
Oui, alors tu es ce plasticien pour ça, mais tu es toujours aussi le poète, donc tu es un laveur de mots. Tu nous parlais de cette façon économe que tu as d'utiliser les mots, tu te dis proche du boucher pour cette... ces silences, ces blancs, cet effacement qui apparaît dans le texte lui-même. Voilà. Et tous tes textes sont imprégnés quand même de cette posture, c'est-à-dire, attention,
un peu
où
moins
je...
Maintenant.
Hein, voilà.
Un peu moins maintenant.
Un peu moins maintenant, oui. Alors, pourquoi un peu moins maintenant?
Parce qu'à un moment, j'en ai éprouvé une certaine gratuité.
Ah oui.
J'avais fait beaucoup de recherches, de mise en espace des poèmes, y compris dans le recueil Vue Probable, ce qui avait dérouté les membres du jury. C'était de justesse que j'ai eu. Heureusement, j'ai été soutenu par Jean Digo, les philosophes m'avaient soutenu. Mais c'est vrai qu'à un moment, on se dit, mais est-ce que je m'égale vraiment à toutes ces trouvailles? Est-ce que c'est pas un peu forcé, toutes ces ruptures, tout ça? Est-ce que je suis comme ça? Et à un moment, et maintenant, j'écris peut-être un peu plus longuement, longuement, avec plus de liens, et plus de liens, même si je garde quand même... Comme on l'a vu quand j'ai lu Déterrement de la lumière, quand même, et on le voit encore mieux quand on voit le poème dans la page, puisque ma poésie est quand même une poésie qui est faite pour être lue dans la page, même si j'aime beaucoup lire et lire les poésies des autres aussi énormément à voix haute. Je trouve que c'est... Mais en fait, je veux dire, c'est pas la même chose que des performeurs ou des poésies qui sont faites pour l'oralité, quoi. Je pense qu'il y a quand même une difficulté à installer mes poèmes dans la voix, quand même, quand on les lit. Ça m'a longtemps posé problème.
Alors, tu as fait partie d'une commission qui s'appelle la commission Pierre-Emmanuel.
Oui.
Et tu dis, il faut apprendre poésophiquement.
Oui,
c'est-à-dire la poésie.
Pierre-Emmanuel était philosophe aussi, poète.
Pierre-Emmanuel, que l'on a vu ici à Toulouse, il est venu dans les années 80. Donc, influence de certains philosophes, des écrivains, en particulier Bachelard.
Oui.
Et il y a un regard aussi sur l'Oulipo. L'Oulipo, tu as dû le pratiquer dans ton atelier d'écriture.
Voilà, n'étant pas dupe. Mais bon, il faut pas. Ça peut faciliter, mais ça peut être aussi assez gratuit, quoi.
Alors, tu fais partie de la boutique d'écriture du Grand Toulouse. Un groupe de recherche.
Qui n'existe plus.
Ah bon, parce que j'allais te dire, qu'est-ce
que c'est ? Qui n'existe plus, puisque c'était Philippe Berthaud qui réunissait tous les animateurs d'ateliers d'écriture.
C'est à Tournefeuille, non ?
À Tournefeuille. Et après, il n'y a plus de...
Je n'avais pas compris,
comme c'était, d'un rendement gratuit.
Oui.
Il n'y a plus de... Pour faire cela, nous étions une bonne trentaine qui échangions.
D'accord.
Et c'était vraiment... très intéressant, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu un intérêt pour cette réflexivité sur la poésie. Enfin, je veux dire que si j'analyse un peu, j'ai été structuraliste au début, il faut le dire, contre tout le monde. Et bon, j'en suis un peu guéri, mais enfin, j'aime quand même beaucoup l'analyse. Je pense que la jouissance, dans un second temps, peut venir après l'analyse. Une autre jouissance.
Alors, tu dis la poésie, le poète doit tenir parole. Alors, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire tenir parole au sens moral, entre guillemets, éthique, mais également tenir parole avec les autres, c'est-à-dire prendre langue avec les autres, donc avoir ce lien.
Tout à fait.
Alors, est-ce qu'on pourrait illustrer ça ?
Vivre en poésie, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est uniquement publier des poèmes, faire des poèmes ? Moi, je préfère parler de poétique. Je pense que la poésie est une monnaie dans la vie, une monnaie pour la parole. Si nous pouvons parler comme ça, c'est aussi par rapport à la poésie, non pas parce qu'elle est que le sujet, mais parce qu'on a un rapport au langage qui fait que...
Est-ce qu'on peut illustrer ça d'un texte, Claude ?
Alors, qu'est-ce que je pourrais lire, là ? Peut-être une écriture de séjour ou pas ?
Non ? Oui, pourquoi pas.
Ou ça, peut-être ?
Oui.
Je sais pas.
Allez.
Alors, ça, c'est sur l'œuvre d'une femme peintre qui était la compagne de Gérard Jean. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, alors j'ai mis une phrase en exergue parce que cette peinture me... Voilà. Le souvenir n'est pas une image actuelle qui se formerait après l'objet perçu, mais l'image virtuelle qui coexiste avec la perception actuelle de l'objet. Le souvenir et l'image virtuelle contemporaine de l'objet actuel, son double, son image en miroir. C'est de Gilles Deleuze. Alors voilà le texte que j'ai écrit sur cette peinture qui est assez figurative, il faut se la représenter. C'est une artiste qui s'appelle Diane Garcès de Marcilla et qui a exposé dernièrement chez Roger Betty. Et la toile se laisse oublier pour une autre présence de corps et d'esprit, de mélancolie peignée, murmurée dans les branches et de marbre troublé. Pour cette heure tardive, au silence embaumé, qui pommelle le ciel et dresse les ifs. Au pan de mur déplié, arrête vive dans l'ombre, jusqu'aux perspectives scalaires, au jugement dernier des verticales, dans l'approche des eaux stagnées, jusqu'à cette île des morts, à l'arbre torse vibrillonnant de bleu, et d'aura rubescente, cet autoportrait dans le retournement pris au jeu du regard oblique, et la toile se laisse oublier, espace mis à nu métaphorique à jamais. Lire quelque chose qui me tient à cœur, puisque j'ai été très en contact avec René Gouzen, et que dernièrement, on a consacré des, je ne sais plus qu'est-ce que c'était comme anniversaire des feuillets d'amour à la CAF Poésie, voilà, et dont j'avais fait à la fois une encre et un poème qui essayait, parce que cette forme de l'hommage, loin d'être quelque chose de figé, de conventionnel, pour moi, c'est un don que je fais aux autres aussi. Tu parlais de ce... Voilà. Et pour rétablir cette chaleur du lien. Clé de voûte, la poésie. La voix, comme héraldique de l'être. Parmi le souffle de briques appareillées, parmi la chute, comme chant des cintres, a écopé le cri des bas-fonds du jour. Textes à l'appui, d'arboutant et de résistance, jusqu'au théâtre d'incarnat message, à toute vie et mort, chevauchement d'avenir. Et toi, public, au fronton de Luciole, sur l'escarpement graduel, qui fera rondo de nuit, de mains amies, entre les vers.
Très beau texte pour René Gouzen, inoubliable fondateur de la CAF Poésie, et grand comédien, grand lecteur, grand comédien, grand metteur en scène,
grand découvreur, oui, aussi,
découvreur, oui.
Et beaucoup
théâtre avec Daniel Catala,
qui a donné dernièrement une belle représentation
sur Daniel
de la fiancée du pirate
de Bertolt Brecht.
Oui. Pour lequel j'ai écrit d'ailleurs un article, parce que j'aime bien aussi rendre compte de spectacles.
Oui, article que tu vas m'adresser.
Je te l'adresserai. Voilà. Ça s'appelle Quand Brecht fait son show.
Voilà, on le mettra sur notre site, le site qui prolonge cette émission. Vous pouvez écouter cette émission et vous aurez également tous les renseignements sur les œuvres littéraires, poétiques et critiques de Claude Barrère, qui est lespoètes.fr. Voilà, nous mettrons tout ça en ligne. Et Daniel Catala, j'ai envoyé un message cet après-midi pour lui dire qu'elle pouvait t'écouter à la radio. Hein, et en tout cas, si elle ne peut pas t'écouter, elle t'écoutera sur notre site lespoètes.fr. Voilà, on va peut-être, avant que tu nous lises notre texte, il y a peut-être un poète dont je voudrais que tu nous parles. C'est de René Nelly. René Nelly disait que le poème est transitif.
Oui.
Ça me semble important.
Alors René Nelly, donc on parlait de Jean Bousquet tout à l'heure pour la maison de la mémoire. Hein, et René Nelly, c'est dans l'axe, hein, c'est le fils spirituel hein, de Jean Bousquet, oui. Qui se sont bien connus. Il a fréquenté la rue de Verdun. Et toi, tu dis, mais moi je disais certaines choses, mais en définitive, avant moi, René Nelly l'a dit. Hein, parce que il disait que le poème était transitif. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça?
Alors transitif, ça veut dire que c'est un guet.
Oui.
C'est un guet et qui demande non pas par élitisme, mais qui demande une quête. C'est-à-dire que il y a une forme de traduction qui se trouve là, au milieu du guet, qui est propre à activer, réactiver des sensations qui sont dans le lecteur, et à le déplacer par l'émotion, puisque le terme émotion, c'est bien cela, hein, c'est un déplacement, c'est pas du tout passif l'émotion, c'est se déplacer vers autre chose. Et en ce sens, il est transitif, il part de quelque part, et il est une expérience. C'est-à-dire, quand on lit un poème, on fait une expérience, oui. Véritablement, l'expérience d'une traversée. Et ce qui est peut-être le plus difficile dans le travail poétique, c'est de travailler à cette traversée, véritablement.
Et lui, il disait, mais ça existe depuis les troubadours.
Tout à fait, voilà. Oui,
voilà.
Oui.
Donc ça n'a rien,
oui,
voilà.
Pas,
et la poésie, si on attaque les modernes là-dessus, parce qu'on dit, mais il y a une espèce d'hermétisme, etc., mais il dit, mais les troubadours, déjà, ont commencé, l'érotique des troubadours, d'ailleurs, le livre génial de Nelly, hein, c'est ça aussi. C'est-à-dire que le poème, il faut aller chercher, c'est-à-dire qu'il y a une quête.
Voilà. Pour moitié. Bon, pour moitié.
Voilà, il faut faire quand même.
Alors, cette quête, elle n'est pas forcément à base de savoir préexistant, à base de culture préexistante. Elle est une forme de disponibilité.
Oui, d'intuition.
Une forme de disponibilité à cette énigme, à ce noyau qui se trouve là, ce troubar Klaus, justement, qui est. Et c'était un peu pour répondre à des reproches d'hermétisme qu'on m'a toujours fait. Moi, je me sens pas du tout. Bon, je me sens peut-être mental. Peut-être le sensible chez moi verse dans le mental. Ça je vais bien le croire, mais chez René Char, ça doit être.
Oui, voilà, les aphorismes. oui, hein. Oui, oui, bon, c'est peut-être.
Je revendique cette densité. Oui. Parce que je pense que dans la poésie, il y a de la pensée aussi. Sans aller jusqu'à la philosophie, mais...
Alors, autre chose aussi, je voudrais... Alors bon, il y a la parole hein, de Laurent Gaspard, qui m'a beaucoup marqué.
Oui.
Nous aussi, bon, je crois que cela, c'est quelque chose d'essentiel, hein, Laurent Gaspard. C'est ce beau texte, ce texte magnifique, où il s'explique vraiment très bien là-dessus. Et où il vilipende le Charles Juillet.
Non, c'est Michonic.
Pardon. Michonic. Alors ensuite, Michonic. Oui, Michonic. Je parlais de Michonic. Bon, Michonic. Il y avait deux choses chez Michonic. D'abord, je me souviens des colères de Michonic sur le sacré. Oui, quand on lui disait, non, moi pas là, c'est sacré. Ou alors là, il devenait... C'était
sacré pour
oui, voilà. Ça,
non, c'est sûr qu'il aimait rompre des lances.
Oui.
Mais moi, ça m'a beaucoup aidé, y compris à me critiquer moi-même, à savoir où j'étais par rapport à tous ces ridicules de la poésie.
Oui.
Et
oui.
Tout de même, si on lit la poésie de Michonic, c'est une poésie très forte, très économe.
Très, très forte, très économe.
D'ailleurs,
tu reprends de Lausy, tu dis le peu obtient le nombre égard. Hein,
voilà.
Tu cites ça, oui, oui.
Après, je pense que la position opposée existe. Hein. Je pense que... Mais il faut se poser la question. Je crois qu'il y a des poètes du flot, il y a des poètes du peu. Il doit y avoir des poètes intermédiaires aussi.
Mais pour en venir au jeu et au moi, dans de Charles Julien, qui a été demandé par Michelin, qui est, pardon, ça n'a rien à voir avec la
non, non, Gaspard,
de Laurent Gaspard.
Ce ne serait pas permis, c'est
non,
pas
non,
quelqu'un
plus,
qui rompt des lampes.
Pas du tout, absolument. bon, toi tu dis, en définitive, il faut aller au nous.
Oui.
Voilà, il faut aller au nous.
Et le jeu, on peut le trouver autrement qu'en disant jeu.
Oui. Jeu est un autre de Rimbaud.
Oui, par ces poèmes que je fais sur à partir d'une rencontre avec un artiste, j'estime que je dis jeu sur une autre matière, une autre ce que me donne c'est l'art propre avec les matériaux propres à cet art-là. Et c'est justement ça qui va me déplacer à l'intérieur de mon propre jeu et de mon propre lyrisme. De me confronter aux matériaux de l'autre.
On va finir sur « Se retrouver dans la langue » de Paul Celan. Je crois que c'est Migosi, j'espère ne pas faire une erreur.
Oui.
Mais je crois que c'est Marcel Migosi.
Il le dit à la fin d'un de ses recueils.
Qu'il a dit qu'il qu'il fait d'un de ses recueils. Hein, voilà. Donc là, vous vous retrouvez complètement.
Puis Paul Celan aussi, Paul Celan, c'est quelqu'un qui me...
Donc se retrouver dans la langue.
Vraiment,
voilà. Donc la poésie, c'est aussi... La finalité de la poésie, c'est de permettre aussi de se retrouver dans la langue. Hein?
Tout à fait.
Voilà. Bien, merci beaucoup, Claude. Donc
merci,
j'espère que l'on aura l'occasion de te revoir, pas dans 5 ans, beaucoup plus avant. Hein?
Merci à toi. Je voulais dire que je remercie Radio Occitanie de maintenir... cette émission, et à toi de continuer à l'animer, parce que des plages de respiration poétique, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est une culture que tu amasses, que d'une mémoire, qui, voilà, même si elle apparaît minoritaire, souterraine, elle sera en résurgence un jour, et peut-être nous en aurons besoin très bientôt, peut-être à partir de la fin du monde de demain.
Merci beaucoup, Claude. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Et depuis, donc, merci effectivement à Radio Occitanie d'avoir cet espace de liberté, de nous permettre d'avoir cet espace de liberté. Et maintenant, et puis merci à Claude Bretin, sans lequel il n'y aurait pas notre site lespoètes.fr qui permet de faire en sorte que cette émission soit diffusée intemporellement et immatériellement, si je peux dire, puisque elle est accessible dans le monde entier grâce à Internet. Voilà. Claude, donc, fidèlement au poste avec moi depuis 1983, quand même. Voilà. Merci beaucoup, Claude.
On a fait une émission immortelle.
Voilà.
C'est la dernière.
Claude Bretin et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie. À la semaine, à l'Ichast.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types traverse la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sou dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, qu'ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous. Comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.